Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver et d'avoir participé à ce culte d'adoration avec vous. Nous allons, merci Patrick pour la présidence, ouvrir la parole de Dieu. Nous ouvrirons la parole de Dieu, la Bible, dans la première lettre que Pierre écrit au chapitre 3, des versets 3 à 5. C'est dans la version second révisée que nous en ferons la lecture qui va s'afficher à l'arrière. N'ayez pas pour parure ce qui est extérieur, cheveux tressés, ornements d'or, manteau élégant, mais la parure cachée du cœur, la parure personnelle, inaltérable, d'un esprit doux et tranquille, ou bien doux et paisible. Voilà ce qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, notre société met en avant l'aspect physique. Elle met l'esthétique de la beauté sur un piédestal. Il suffit de voir sur la couverture de certains magazines, on y voit des visages aux traits parfaits, des sourires aux dents ultra blanches, éclatantes. Des corps sans défaut apparent. La culture du beau oriente nos choix de sélection de beauté vers des modèles précis, vers des standards précis. Et certaines personnes sont prêtes à faire n'importe quoi pour être sur le plan physique. Il y en a qui utilisent toute une série de produits cosmétiques coûteux. Il y en a qui se font des filtres avec les photos, là. Hein. Vous savez, on peut arranger les photos pour qu'on soit plus beau. Il y en a qui font de la chirurgie esthétique. On fait des petites piqûres de Botox, là, immobiliser l'expression du visage et pour empêcher les rides d'apparaître. On se fait gonfler les lèvres. Je sais bien que vous n'êtes pas concerné par tout ça. Oh, et on utilise même parfois l'IA pour tricher et se faire plus beau. C'est pas vrai? Ça arrive, ça existe. Tout cela pour paraître. Et pourtant, le livre des Proverbes, chapitre 31, verset 1, si je me souviens bien, nous dit que le charme est trompeur et la beauté ne dure pas. La beauté ne dure pas. La beauté extérieure, la beauté physique, la beauté de façade est éphémère. Elle se fane, elle se flétrit. C'est une réalité universelle, un constat universel qui a fait dire notamment à comment il s'appelle encore celui-là, à Victor Hugo, entre autres, ceci, la beauté purement physique est aussi éphémère que les feux du crépuscule. C'est vrai ce qu'il dit là? Je ne savais pas ce que c'était les feux du crépuscule. J'ai regardé. Vous savez ce que c'est que les feux du crépuscule? Eh bien, c'est un court moment qui se situe, où le ciel est orange, entre le coucher du soleil et la tombée de la nuit. Ça ne dure pas. Eh bien, la beauté physique, ce monsieur-là, Victor Hugo, la compare au feu crépusculaire, au feu du crépuscule. Mais à côté de cette beauté extérieure, à côté de cette beauté de façade, il y a une autre forme de beauté. À côté de cette beauté de façade qui s'estompe au fil du temps, il y a une autre beauté qui, elle, ne prend pas une ride, ne se fait pas sillonner par les rides. Une beauté intérieure qui ne se flétrit pas. Une beauté intérieure qui ne fane pas. C'est la beauté spirituelle. C'est la beauté virtueuse. Et c'est cette beauté particulière à laquelle Dieu prend particulièrement en compte. Dieu ne tient pas compte de cette beauté de façade, mais il considère exclusivement cette beauté intérieure. C'est cette beauté-là qui compte aux yeux de Dieu. Ça n'arrête pas sur le GSM. Alors, souvenons-nous du prophète Samuel. Quand il passe en revue tous les fils d'Isaïe ou de Jessé pour en élire un, pour l'installer sur le trône d'Israël à la place du roi Saül. Il passe tous les fils d'Isaïe en revue. Et puis, il est impressionné par l'un d'entre eux, en particulier Éliab. Vous vous souvenez de ce passage-là? Il est impressionné par le physique d'Éliab. Et il se dit en lui-même, certainement que c'est lui que Dieu va choisir comme futur roi d'Israël pour régner. Et puis, Dieu lui parle dans une conviction intérieure, et lui dit, ne considère pas sa grandeur, sa stature, sa taille, sa force, parce que je l'ai rejeté. Et de conclure par ce verset bien connu que tu nous as rappelé encore ce matin, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais Dieu, l'Éternel, regarde au cœur. L'Éternel regarde à l'intérieur. L'Éternel regarde aux qualités spirituelles de l'être humain. L'enveloppe extérieure n'impressionne pas Dieu. Il n'utilise jamais l'apparence physique pour déterminer la beauté d'un homme. Les critères de beauté de Dieu, selon Dieu, sont tout à fait différents des critères de beauté de l'être humain, que l'être humain considère. Pierre, dans le passage qu'on a lu, demande aux femmes chrétiennes, aux sœurs, de se concentrer sur les qualités intérieures et spirituelles afin d'être véritablement belles aux yeux de Dieu. Afin d'être véritablement belles devant Dieu. Et il leur écrit donc ceci en forme de paraphrase. Votre beauté ne doit pas venir d'une parure extérieure comme les cheveux tressés, les bijoux en or et les vêtements raffinés. Elle doit plutôt venir de l'intérieur en développant un esprit doux et tranquille, ou bien doux et paisible. Ce qui est d'une grande valeur devant Dieu. Ce qui est d'une grande valeur aux yeux de Dieu. En contraste finalement avec cette femme querelleuse, impétueuse, belliqueuse qui nous est révélée, qui nous est présentée dans le livre des Proverbes. Pierre, bien sûr, n'interdit pas la coquetterie. Il n'empêche pas que les sœurs, que les frères soient coquets, pour autant que cela reste pudique, décent. Mais il veut souligner, simplement rappeler l'importance d'un esprit doux et paisible qui est supérieur et plus beau devant Dieu que tout le reste. C'est pareil aussi pour les hommes. Mieux vaut avoir un bel intérieur qu'un bel extérieur. On peut avoir les deux. Mais ce qui prime devant Dieu, c'est l'intérieur. L'intérieur de l'être humain. Alors, on peut rappeler cette indignation dont Jésus a fait preuve lorsqu'il a parlé durement aux scribes et aux pharisiens. On se souvient de ce passage-là. Hein. Quel malheur sur vous. Malheur à vous, scribes et pharisiens. Hypocrites. Vous êtes comme des tombeaux blanchis. Beaux en dehors, mais pleins d'ossements de mort et de diverses impuretés, de toute espèce d'impureté au-dedans. La façade. Extérieure. La façade extérieure. Ils ont l'apparence de la piété, un petit peu dans un autre, tout autre contexte, l'apôtre Paul parlera de cela. Ils ont l'apparence de la piété avec leur belle robe blanche, sacerdotale, mais ils en renient ce qui en fait la force. Ils n'ont pas la vie de l'esprit en eux. Leurs œuvres sont stériles. Ils sont vides à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils présentent une belle façade, un bel extérieur, mais au-dedans, c'est le vide, c'est la laideur, c'est la mort. On peut afficher, le dimanche, une belle façade, une belle présentation, et durant tous les autres jours de la semaine, être laid devant Dieu. Être laid devant Dieu. Beau de l'extérieur, mauvais de l'intérieur. Je me souviens, enfin il y a quelques jours d'ici, vous savez, je suis allé avec Ingrid chercher des fruits, des légumes. Alors, on a pris des oranges, toutes sortes. Et puis on est tombé sur un bac avec des pêches magnifiques. C'était des nectarines avec la peau lisse. Vous voyez, elles étaient rouges, grosses. On avait envie de croquer dedans directement. Et puis quand on est rentré, on a pris 2 kilos, 3 kilos. On a commencé à couper la pêche. Une première pêche. Elle est toute brune à l'intérieur. Toute sèche. Il n'y avait pas de jus à l'intérieur. Une deuxième, pareil. Une troisième, pareil. Une quatrième, stop. Dès qu'on passera à côté de ce marchand, on va lui montrer, on va lui signaler et on va lui dire que ces pêches, ben, elles sont... Alors c'est ce qu'on a fait, on est passé, on est retourné chez le marchand et on lui a signifié, cette chaise, elle est dans le chemin, n'est-ce pas? Et on lui a signifié, écoutez, vos pêches, elles sont mauvaises. Alors il n'a pas discuté, il nous a remboursé, il a dit oui, d'autres personnes sont venues s'en plaindre. Et je lui ai glissé cette métaphore. Vous savez, vos pêches, et elle a été bien acceptée, eh bien, elles sont comme certaines personnes. Belles de l'extérieur, mais mauvaises à l'intérieur. Alors il a dit, ah oui, ça c'est vrai. Mais c'est vrai. On peut avoir une façade extérieure positive, belle, et pourtant à l'intérieur. Charme et trompeur, nous dit Proverbe, verset 30, chapitre 31. La Bible insiste sur l'importance d'une beauté intérieure, de qualité, une beauté éthique, une beauté spirituelle, une beauté vertueuse. Voilà ce sur quoi la parole de Dieu insiste. Et Dieu ne considère que cette forme de beauté. Dieu ne prête pas attention à la façade extérieure, à la beauté extérieure. Jésus, il nous est dit de lui en psaume 45, verset 2. Ben oui, vous connaissez ce psaume. Ce psaume, il dit que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Mon œuvre est pour le roi. Et puis il dit, tu es le plus beau des fils des hommes. Et c'est vrai. Jésus est le plus beau des fils des hommes. Alors c'est quoi? Être beau pour Dieu, être beau devant Dieu. Qu'est-ce qu'une belle personne aux yeux de Dieu? On y a déjà répondu avec la lecture là du passage de 1 Pierre tout à l'heure. Mais ça continue à être beau, ça, à être beau devant Dieu, être beau aux yeux de Dieu, ça implique toute une série d'éléments. Premièrement, être beau aux yeux de Dieu, eh bien, c'est tout d'abord haïr le péché et s'attacher fortement au bien. Romains 12, verset 9, l'apôtre nous dit « Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. » Ça, c'est être beau aux yeux de Dieu. Il dit « considérez le péché avec dégoût, que vous soyez dégoûté par le péché, que vous le considériez comme quelque chose de détestable. » Sachez le discerner pour vous en éloigner, pour fuir loin du péché. Et au contraire, attachez-vous fermement au bien. Vous savez, comme un enfant qui ne veut pas aller à l'école et qui reste fermement attaché au bras de sa maman pour ne pas descendre, pour ne pas rejoindre sa classe. Eh bien, c'est comme ça en quelque sorte. Restez fermement attaché au bien. Hébreux 13, verset 16 nous dit n'oubliez pas la bienfaisance. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car ce sont à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. N'oubliez pas de faire du bien. C'est ça la bienfaisance. Attachez-vous fermement, fortement au bien. Ça, c'est être beau aux yeux de Dieu. Être beau aux yeux de Dieu, c'est aussi rechercher et poursuivre la sanctification. Hébreux 12, Hébreux 12, verset 14 nous dit, recherchez ou poursuivez la sanctification. Alors il y a deux facettes, si je puis dire, comme vous le savez certainement, à la sanctification. Et il y a cette sanctification qu'on appelle effective. Nous sommes rendus saints, mis à part, mis de côté, consacré à Dieu dès le jour de notre conversion. Dieu nous considère comme... Nous sommes saints devant Dieu et c'est comme tel qu'il nous considère, sanctifiés, saints. Et à côté de ça, il y a la sanctification pratique et progressive. Nous sommes invités en tant que personnes nées de nouveau à marcher, à progresser dans ou sur le chemin de la régénération, de la transformation, de la sainteté. Et c'est de cette sanctification dont Hébreux 12, verset 14 nous parle. Ainsi qu'un Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, qui nous dit ce que... 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Dieu veut notre sanctification. Nous sommes saints, oui, mais nous sommes appelés à devenir ce que nous sommes en Christ. C'est ça aussi, être beau aux yeux de Dieu. C'est ça, être beau aux yeux de Dieu. Être beau devant Dieu, c'est encore avoir faim et soif de justice. C'est considérer les choses, nos appréciations, nos décisions, nos jugements, s'il y en a, de façon juste, de façon équitable. Être beau devant Dieu, c'est donc, comme nous le rappelle le texte de Jésus sur les béatitudes, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Car ils seront rassasiés. Il y a quelques jours, je suis allé avec Ingrid dans un genre de pépinière là, ou comment s'appelle encore ça, une jardinerie. Alors on a acheté des fleurs pour repiquer, des légumes aussi à repiquer dans le jardin potager, des tomates, etc. Et puis on paye aux caisses, on s'en va avec le caddie. Et en déchargeant les fleurs dans le coffre de la voiture, je m'aperçois que sur la barre horizontale qui permet de pousser le caddie, il y avait deux tapis qui étaient là. Et je me dis, mais on a payé ça? Vous savez, je dis, regarde un petit peu Ingrid, si c'est sur le ticket de caisse. 52 euros. Et alors, ça trotte dans la tête. Et puis, moi, j'y suis pour rien. Je sais pas du vol. Donc, si elle s'est trompée, c'est pas de ma faute. Vous savez comment le raisonnement humain peut intervenir. Mais alors, je reçois une conviction profonde. Il dit, c'est pas juste. Qui me dit, c'est pas juste. Alors, la conscience, quand le Seigneur exerce notre conscience comme cela, on ne sait pas résister. Sinon, on a un poids qui pèse comme ça. J'ai fait demi-tour. J'ai retourné aux caisses. Je dis, madame, vous ne seriez pas trompée, là. Regardez sur le ticket, je ne vois pas afficher les... Oh, monsieur, c'est extraordinaire. À notre époque, quelqu'un d'honnête comme ça, c'est rare. Alors, j'en ai aussi profité pour glisser. Il y avait des personnes qui étaient là, à la caisse. J'ai dit, mais il y a quelqu'un qui voit tout. Sans plus. Et peut-être que cette petite phrase pourra faire son chemin dans le cœur de l'un ou de l'autre. Et la dame qui était là au caisse et qui était en train de passer ses articles, elle faisait oui avec sa tête. Donc vous voyez. Être juste. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Parce que c'est ça aussi être beau aux yeux de Dieu. Il y a Eric qui lève le doigt. Ah oui. Voilà. Voilà. Eh bien, merci pour ton témoignage, Eric. C'est vrai, on n'a pas besoin de ça pour être béni. On n'a pas besoin de ce genre d'entourloupette pour être béni. Les gens d'extérieur, ils vont nous prendre pour... Ils peuvent considérer ça comme étant de l'idiotie. Hein. Mais le chrétien devrait avoir davantage de scrupules dans certains contextes. N'est-ce pas? Alors, où en suis-je? Être beau pour Dieu, c'est aussi être miséricordieux. Être capable d'accorder son pardon. Considérer la misère des autres avec compassion, avec miséricorde. Les regarder avec la... Pleurer avec ceux qui pleurent, souffrir avec ceux qui souffrent. C'est ça, être miséricordieux. C'est le contraire, finalement, de l'indifférence, de l'individualisme. On trouve toujours dans les Béatitudes, au verset 7, ce verset, ces paroles de Jésus qui dit « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront aussi la miséricorde ». Et puis, Michée 6, verset 8, c'est un verset qui est bien connu aussi, n'est-ce pas? Il nous dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi, et ce que l'Éternel demande de toi. » Un, c'est que tu pratiques la justice, encore une fois. C'est que tu aimes la miséricorde. Voilà. La miséricorde, est-ce que nous aimons la miséricorde? C'est quelque chose de beau aux yeux de Dieu. C'est être beau aux yeux de Dieu que d'être miséricordieux. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Que celui qui croit être debout ne prenne garde de tomber. Restons humbles et continuons notre chemin de croissance tout en comptant sur sa grâce. Marcher humblement avec son Dieu. Et puis, être beau, c'est aussi être un artisan de paix. Œuvrer pour un climat de paix dans nos relations fraternelles, dans la communauté, au sein de notre famille. Essayons d'œuvrer pour la paix. Soyons des artisans de paix en évitant les conflits, en évitant les tensions, en évitant les querelles, le ressentiment, la jalousie, etc. Œuvrons pour la paix, ouvriers de paix. C'est ça aussi être beau aux yeux de Dieu. Œuvrer pour la paix. Recherchez et poursuivez la paix. Recherchez, c'est toujours dans Hébreux 12, verset 14, donc, qui dit recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix. Et puis il y a ce verset de l'apôtre Paul là, qui nous dit, c'est l'apôtre Paul, je pense, qui dit vivez en paix avec tous les hommes, pour autant que cela dépende de vous. La paix est tellement importante. Dieu est un Dieu de paix. Et il souhaite que ses enfants, on n'aime pas quand nos enfants chamaillent, n'est-ce pas? Ben voilà. Dieu veut que nous soyons animés de sentiments paisibles, de sentiments de paix. Être beau aux yeux de Dieu, c'est encore faire preuve de foi. Ça plaît à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, personne ne peut plaire à Dieu. Quelqu'un qui témoigne d'une pleine et entière confiance en Dieu est quelqu'un de beau à ses yeux. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu le dit, je le crois. Dieu le promet, il tient toujours ses promesses. Je lui fais confiance. Dieu ne ment pas et il nous invite à lui faire pleinement, entièrement confiance. Ça, c'est être beau aux yeux de Dieu. Et puis, être beau, c'est quoi encore? Ah oui, on en a déjà parlé, mais il faut... c'est pas mauvais de rappeler ça, et de rappeler, et encore rappeler, c'est savoir être beau, c'est savoir, c'est pouvoir être capable de maîtriser sa langue. Petit membre insignifiant, nous dit Jacques. On ne le voit même pas quand on la ferme. Mais pourtant, ce petit membre a de tellement grandes prétentions. On peut bénir quelqu'un comme on peut le maudire. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue, vous savez ça. On peut détruire quelqu'un avec sa langue. On peut faire des dégâts inconsidérables. On peut envoyer quelqu'un à l'hôpital pour dépression à cause de la mauvaise langue, parce qu'on casse sa réputation, les critiques. Et d'ailleurs, c'est tellement difficile de maîtriser sa langue, c'est tellement pénible de maîtriser sa langue que l'apôtre Jacques dit si quelqu'un parvient à garder sa langue en bride, c'est un homme parfait, parce qu'il sait combien c'est difficile de maîtriser sa langue. Pourtant, celui qui maîtrise sa langue, celui qui garde sa langue en poche, on va dire ça comme ça, eh bien, est beau aux yeux de Dieu. Il est beau aux yeux de Dieu. Alors, être beau aux yeux de Dieu, c'est encore s'éloigner du mensonge. Depuis que mes enfants sont petits, comme 2 ans, j'ai essayé de leur inculquer certains versets que je considérais comme étant importants. Toute la Bible est importante, bien évidemment, mais certains versets me paraissaient très importants pour eux. Et j'ai essayé de leur inculquer certains versets de la parole de Dieu, et notamment ce verset du livre des Proverbes, chapitre 12, verset 22. Les lèvres mensongères sont en horreur à l'Éternel. Dieu est le mensonge. C'est le Dieu de vérité. Dieu est le mensonge. Celui qui dit la vérité, qui rejette le mensonge, que le père du mensonge essaye de nous pousser à faire, eh bien, est beau aussi aux yeux de Dieu. Alors, il y a tant d'autres choses. Être beau, c'est encore faire preuve de générosité, comme Dorcas, ce que Dieu aime, c'est quoi encore? C'est la libéralité. Hébreux 11, 12, verset 14. Ce que Dieu aime, c'est t'as de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. La libéralité. Dorcas était une femme jolie, belle aux yeux de Dieu pour toute la générosité, la libéralité dont elle faisait preuve envers ses voisins et envers les autres veuves. Alors être beau, c'est produire en nous le fruit de l'esprit. Bah oui. La paix, la joie, la bonté, l'amour, la patience, la maîtrise de soi, la bienveillance, etc., etc. Et ça, c'est être beau aux yeux de Dieu aussi. Être beau aux yeux de Dieu, c'est aussi rechercher les choses qui sont en haut. Colossiens chapitre 3. Chercher les choses d'en haut, là où vous êtes assis par la foi avec Christ dans les lieux célestes. Ça, c'est être beau aussi aux yeux de Dieu. Conclusion. Gandhi, il a dit quelque chose de très intéressant. Il a écrit ceci, il a dit ceci. La vraie beauté consiste en la pureté du cœur. La vraie beauté consiste en la pureté du cœur. Et c'est vrai. Et ça rejoint la pensée biblique, finalement. Les critères de beauté du monde sont « concentre-toi sur ton aspect physique, sur ton aspect extérieur, sur la beauté extérieure ». La parole de Dieu, elle nous encourage à entretenir notre beauté intérieure. Notre beauté liée aux vertus spirituel. Voilà ce à quoi la parole de Dieu nous encourage. Entretenir cette forme de beauté intérieure. Pourquoi ? Eh bien, afin de ressembler à Jésus, dont il est écrit en Ésaïe 53, qu'il n'avait ni beauté ni éclat sur le plan physique pour attirer nos regards. Mais quelle beauté resplendissante ! Quelle beauté intérieure resplendissante et rayonnante dont il faisait preuve. Alors la question, comment Dieu me trouve-t-il? Comment Dieu me voit-il? Suis-je beau à ses yeux? Suis-je belle à ses yeux d'après ses propres critères d'évaluation? Est-ce que je suis belle? Est-ce que je suis beau aux yeux de Dieu? Est-ce que mon intérieur réjouit le cœur de Dieu? Alors sans négliger notre aspect physique, c'est important quand même. Regardez, comme je suis quand même présentable aujourd'hui, n'est-ce pas? Sans négliger notre aspect physique, mais sans pour autant non plus qu'il prédomine. Sachons voir la beauté comme Dieu la perçoit. Sachons voir la beauté comme Dieu la voit. Que Dieu nous aide à être beau à ses yeux, à rayonner de toutes ces vertus spirituelles que nous sommes appelés à manifester en tant que chrétiens. Amen.